Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Lefer, bonjour.
Bonjour Gonzalo.
Bienvenue dans cette émission.
Merci à toi.
De quel livre nous parles-tu?
Je voulais parler surtout d'Antonin Artaud, en fait. Plus que d'un livre, j'en ai ramené plusieurs d'ailleurs. Pas toute la biographie, je ne les ai pas tous retrouvés dans ma cave. Mais donc de cet auteur, c'est une émission littéraire, je crois que tu fais. Hein. Donc je vais partir en fait, parce que lui il est plutôt contre la littérature. Et
tu veux parler du personnage préalablement?
Oui, je veux bien parler du personnage qui est né à la fin du 19e à Marseille, qui a passé certain nombre d'années à l'hôpital psychiatrique non loin d'ici, à Sotteville-lès-Rouen, hôpital psychiatrique qui existe toujours. Je ne sais pas s'ils ont maintenant
un réfectoire
ou un couloir Antonin Artaud. Et qui a produit des écrits assez peu littéraires finalement, mais où il déverse son esprit, parce que lui il parle pas tellement, il parle un peu d'âme, mais il déverse son esprit, voilà.
Qu'est-ce qu'un écrit littéraire ou non littéraire?
Il l'explique assez bien, hein, et c'est par ça que je propose de commencer.
Bonsoir. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus. En attendant un incertain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie.
Donc là, c'est un extrait de L'Ombilique des Limbes. C'est un recueil de textes divers et variés. Je vais en lire quelques extraits si on a le temps. Et justement, ça me paraissait être une bonne introduction de commencer par ce discours sur ce que c'est l'acte d'écrire. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure bavent sur moi. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même et qui m'apparaîtrait comme une grossesse indifférente de mon esprit. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas dans l'esprit. Je souffre de l'esprit organe, de l'esprit traduction ou de l'esprit intimidation des choses pour les faire entrer dans l'esprit. Ce livre, je le mets en suspension dans la vie. Je veux qu'il soit mordu par les choses extérieures et d'abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les ciliations de mon moi à venir. Toutes ces pages traînent comme des glaçons dans l'esprit, qu'en excuse ma liberté absolue. Je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je ne reconnais pas dans l'esprit de plan. il faut en finir avec l'esprit comme avec la littérature. Je dis que l'esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller, une porte simplement à boucher avec la réalité. Et ceci n'est pas plus une préface à un livre que les poèmes, par exemple, qui le jalonnent ou le dénombrent de toutes les rages du mal-être. Ceci n'est qu'un glaçon aussi mal avalé.
J'ai la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'était une fois un étudiant qui voulait fort comme en littérature. Sa copine, elle était si douce qu'il pouvait presque, en la mangeant, rejeter tous les vices, repousser tous les mâles, détruire toute beauté qui, par ailleurs, n'avait jamais été ses complices parce qu'il avait la folie. Il avait la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Et si parfois l'on fait des confessions à qui les raconter? Même le bon Dieu nous a laissé tomber.
Il a donc publié plusieurs ouvrages.
Il a publié. On retrouve. Bon, il est beaucoup connu pour un livre théorique sur le théâtre qui s'appelle Le théâtre et son double. Il a été acteur de cinéma, il a beaucoup fait de théâtre aussi en tant que metteur en scène, etc. Il a fait quelques traductions de livres, on en parlera tout à l'heure. Et puis beaucoup d'essais, d'observations. Il a aussi des écrits assez politiques. Si j'ai le temps, je lirai quelque chose qu'il a écrit quand il était au voyage au Mexique. Des échanges de courriers avec des éditeurs. Enfin, donc vraiment une écriture très protéiforme. Et finalement, on est assez peu dans le récit avec Antonin Artaud quand même. C'est un peu ça la constante. On n'a pas des histoires construites avec humour, tristesse. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Il déverse son âme.
Car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance. Les crédons petits bourgeois de la bonne santé suffit. Car mon être est beau, mais affreux.
Les poètes lèvent des mains ou tremblent de vivant vitriol. Sur les tables de ciel idole s'arc-boutent, et le sexe fin trempe une langue de glace dans chaque trou, dans chaque place que le ciel laisse en avançant. Le sol est tout conchié d'âmes et de femmes au sexe joli, dont les cadavres tout petits dépapillotent leurs momies.
Un autre endroit, une autre vie. Et oui, c'est une autre histoire. Mais à qui tout raconter ? chez les ombres de la nuit. Au petit matin, au petit gris. Combien de crimes ont été commis contre les mensonges et soi-disant les lois du cœur. Combien sont là à cause de la folie? Parce qu'ils ont la folie. Ils ont la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. Oui, c'est la folie. C'est la folie. La folie. La folie. La folie. La folie.
Je vous lis un autre petit texte, toujours extrait de l'Ombilique des Limbes, et le texte s'appelle « Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants ». Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que, premièrement, le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. Deuxièmement, les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Troisièmement, les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Quatrièmement, le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. Cinquièmement, les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Sixièmement, il y aura toujours des fraudeurs. Septièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Huitièmement, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une question de conscience. La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l'inspecteur usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Tous les bêlements de la charte officielle sont sans pouvoir d'action contre ce fait de conscience. À savoir que plus encore que la mort, je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge et juge exclusif de la quantité de douleur physique ou encore de vacuité mentale qu'il peut honnêtement supporter. Lucidité ou non-lucidité. Il y a une lucidité que nulle maladie ne m'enlèvera jamais, c'est celle qui me dicte le sentiment de ma vie physique. Et si j'ai perdu ma lucidité, la médecine n'a qu'une chose à faire, c'est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l'usage de cette lucidité. Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres rognés, des cuistres rognés. Il y a une chose que vous devriez mieux mesurer, c'est que l'opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont eu le malheur de l'avoir perdu. Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain, et ce mal s'appelle l'angoisse, dans sa forme mentale, médicale, physiologique, logique ou pharmaceutique, comme vous voudrez. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicidés, l'angoisse qui fait les damnés, l'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui lèse la vie, l'angoisse qui pèse la corde ombilicale de la vie. Par votre loi inique, vous mettez entre les mains de gens en qui je n'ai aucune espèce de confiance, con en médecine, pharmacien en fumier, juge en malfaçon, docteur, sage-femme, inspecteur, doctoraux, le droit de disposer de mon angoisse, d'une angoisse en moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l'enfer. Tremblement du corps ou de l'âme, il n'existe pas de sismographe humain qui permette, à qui me regarde, d'arriver à une évaluation de ma douleur plus précise que celle foudroyante de mon esprit. Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. rentrez dans vos greniers médicaux punaises. Et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier, ce n'est pas par amour des hommes que tu délires, c'est par tradition d'imbécilité. Ton ignorance de ce que c'est qu'un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. Je te souhaite que ta loi retombe sur ton père, ta mère, ta femme, tes enfants et toute ta postérité. Et maintenant, avale ta loi.
Aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades, car c'est par les médecins et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveur les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé. Il lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé d'un cran. Or, je le répète, le bardo, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas, il n'y a pas. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, et favoriser un reflux du néon n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ?
La crise mondiale actuelle a atteint la France après les autres pays. Mais, bien qu'il n'y paraisse pas, elle l'a atteinte plus gravement. À l'inverse de ce qui se passe ailleurs, la France actuelle souffre de la crise dans sa conscience, bien plus que dans ses capitaux ou ses richesses, et la jeunesse française ressent particulièrement les effets de cette crise. Celui qui aurait connu Paris il y a 3 ans et y retournerait maintenant ne le reconnaîtrait plus. En apparence, la ville a peu changé, mais la vie de Paris, ce qui en était la vibration, la jeunesse, le bruissement, l'éclat, le plaisir, c'est cela qui a changé terriblement. C'est donc surtout la jeunesse qui souffre, et il n'est rien qui affecte autant la vie profonde d'un pays que le mal de sa jeunesse. Je ne dirais pas que la jeunesse française a perdu l'espoir. Je dirais qu'elle est touchée dans les ressorts même de l'espoir, car elle est sur le point de perdre confiance dans les ressources de la vie. Le gouvernement se préoccupe de maintenir l'évaluation des prix sur les articles de première nécessité pour qu'ils ne soient pas vendus à perte, permettant ainsi aux paysans français de conserver leur ancien niveau de vie. Mais il ne se préoccupe nullement, comme ici, de la vie de la jeunesse. et la jeunesse française abandonnée à elle-même, je parle surtout des jeunes peintres, sculpteurs, comédiens, cinéastes, etc., est près de désespérer. Inutile de dire donc mon étonnement. Quant à mon arrivée ici, j'ai vu quel soin le gouvernement révolutionnaire du Mexique porte aux œuvres de la jeunesse. J'ai parlé avec des artistes, des peintres, des intellectuels révolutionnaires et aussi avec des musiciens. Le département des Beaux-Arts, dirigé par le professeur Muñoz Costa, m'a fait l'honneur de m'inviter à son congrès de théâtre d'enfants comme délégué de la République française. Et j'ai pu me rendre compte que la Révolution du Mexique a une âme vivante, une âme exigeante dont les Mexicains eux-mêmes ignorent jusqu'où elle peut les mener. Voilà ce qu'il y a de pathétique dans le mouvement révolutionnaire du Mexique. Le jeune Mexique va de l'avant, il est décidé à refaire un monde et ne recule pour reconstruire ce monde devant aucune transformation. Interrogez les jeunes révolutionnaires du Mexique. Aucun de vous ne fera la même réponse. Ce chaos d'opinion, c'est la meilleure preuve du dynamisme de la révolution. Que la vie du Mexique doive être socialiste, les jeunes s'accordent tous là-dessus. Mais il faut le dire, les opinions divergent quant aux moyens à employer pour arriver à ce socialisme du Mexique, total et vite.
Qu'est-ce qui te plaît dans les écrits d'Antonin Artaud ? Il nous faut conclure.
Eh bien, la puissance de l'écrit. Hein, il y a quand même une grande richesse dans son écriture. Et puis le fait qu'il sorte complètement du cadre, qu'il parle un petit peu de tout ce qui lui vient. Il appartenait au mouvement surréaliste aussi, hein, donc... Il y a parfois aussi un peu d'écriture automatique. On sent une écriture sous influence, donc sans doute de la drogue, mais sans doute d'un esprit malade aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait justement de réussir à transformer un mal-être profond en œuvre. J'allais pas dire littéraire, ce serait peut-être l'offenser, mais en tout cas en œuvre écrite.
Lefebvre, merci. Thank you.
chanter. Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère. Pour mettre pas les...